Bonjour.
Depuis plusieurs années, vous avez mis en place différents sondages sur Internet. Le but, c'était de vous pencher sur les mots, expressions régionales, d'en mesurer l'existence et la vigueur.
C'est ça, tout à fait. Donc mesurer la vitalité un peu des expressions régionales et voir est-ce qu'elles sont finalement cantonnées à une région et si oui, laquelle.
Et y a eu énormément de réponses. C'est un sujet qui passionne les gens, ce parler régional. Ça passionne les gens parce que ça participe de l'identité, à votre avis?
Je pense qu'il y a de ça, effectivement, et en s'intéressant à ce lexique, à ces expressions, on s'intéresse vraiment à ce que les gens disent et pas à ce que les dictionnaires parisiens essayent de nous faire dire. Donc je crois que c'est une des raisons pour lesquelles les gens se passionnent énormément pour ces enquêtes et pour ces études.
Et puis par exemple, entre ceux qui mangent des pains au chocolat ou ceux qui mangent des chocolatines, il y a des débats qui sont interminables sur les réseaux sociaux.
Tout à fait. Alors le débat pain au chocolat ou petit pain au chocolat ou chocolatine, c'est un des débats les plus connus sur les réseaux sociaux. Il y a aussi le problème de la serpillière qui avait pas mal buzzé le mois dernier, donc en Suisse romande, mais en France voisine, on appelle ça une panosse. Et d'autres gens appellent ça, dans l'Ouest, ils appellent ça une cinse. Dans le nord de la France, on appelle ça une oisingue. Et en Wallonie, par exemple, on appelle ça souvent un torchon. Donc il y a plusieurs zones de débat autour des mots régionaux.
Et cet atlas, il porte bien son nom parce que grâce au matériel récolté, vous avez pu établir des cartes, c'est ça?
C'est ça, donc c'est une succession de cartes avec quelques petits textes explicatifs et qui permettent de voir justement dans quelle partie de la francophonie d'Europe, c'est-à-dire en Wallonie, en Suisse romande et en France, on utilise le mot cornet. Donc on utilise notamment dans le nord de la Suisse romande, mais qui s'utilise aussi en Lorraine. Et puis à l'inverse, l'équivalent du sud-ouest qui s'appelle poche, ou ce que d'autres appellent un sac tout simplement, quoi.
Est-ce que vous avez été surpris parfois de découvrir que dans une région on disait plutôt ça alors que vous pensiez que c'était un autre terme qui serait utilisé?
Alors une des surprises que j'ai eues en faisant ces cartes, c'est les noms des repas, donc du triplet, déjeuner, dîner, souper. Je pensais que c'était encore beaucoup plus utilisé en France que ça ne l'est actuellement. Et en fait, on voit qu'en France, c'est presque disparu, alors que on apprenait à l'université que c'était quelque chose qui était encore normalement assez courant dans le sud ou dans le nord. Et là, les cartes nous ont montré que c'était pas le cas. J'ai été aussi surpris de l'extension de l'expression « il fait cru », qui s'utilise en fait pas seulement en Suisse romande, mais qu'on retrouve, c'est le bonjour pour le dire, hein, mais qu'on retrouve aussi en Belgique et dans l'est de la France. Donc il y a des éléments comme ça qui sont plus larges que ce qu'on aurait cru à l'origine.
Alors moi, en parcourant ces cartes, j'ai une réminiscence comme ça qui est revenue pour fermer la porte. Dans le Jura, je ne sais pas, Stéphanie, comment vous allez dire, vous, pour fermer une porte à clé?
Ticlé.
Eh ben voilà, ce ticlé, c'était un mot que j'avais complètement oublié, zappé de ma mémoire. Et c'est en voyant ce mot utilisé dans une toute petite partie de la Suisse romande sur une des cartes que vous avez publiées, Mathieu Avenzi, qui est un souvenir comme ça qui est revenu.
Et vous disiez côté ou...
Alors on disait ticlé. On dit dans le Jura, on dit ticlé.
Ouais, mais c'est vrai que...
Alors aujourd'hui, je ferme la porte à clé, tout simplement.
Dans le Jura antique,
là. Ouais, dans l'antique et dans le canton de Vaud et un peu à Fribourg, en côte. Donc oui, c'est des expressions qui viennent simplement. La côte, c'était le bout de bois qu'on calait sous une porte pour la tenir. Et puis la ticle, je crois que c'était un bout de serrure ou une poignée dans les dialectes locaux. Donc il y a des origines, disons, ancestrales dans ces mots qui continuent d'être utilisés ou pas, quoi.
Mathieu Avenzi, le but poursuivi avec cet atlas, c'est montrer qu'entre le français des médias parisiens et puis la langue vraiment parlée, il y a un monde de différence.
Il y a un monde de différence et effectivement qui mérite d'être cartographié et qui mérite d'être connu au-delà des trois entrées que Larousse et le Robert donnent bien y consacrer chaque année pour faire le buzz quand ils sortent la nouvelle édition de leur dictionnaire, quoi.
c'est aussi montrer que la langue, elle n'est pas inerte, que les régionalismes, les helvétismes, les belgicismes sont des richesses et pas des choses contre lesquelles il faut lutter.
Effectivement, il y a un peu l'idée de montrer que finalement cette richesse de la langue, c'est pas des fautes, c'est pas des écarts de langage, c'est pas des choses qu'on doit gommer pour remplacer par un autre usage. C'est vraiment quelque chose qui mérite d'être là. Et souvent, d'ailleurs, ces mots résistent parce qu'ils désignent des réalités que le français standard permet pas de désigner. Je pense notamment, par exemple, au verbe s'entrucher qu'on utilise dans les Ardennes et qui veut dire avaler de travers en mangeant. Donc, il y a des mots simples pour désigner des expressions compliquées que le français standard ne permet pas de désigner, justement.
Et c'est vrai que de nos jours, on parle beaucoup de mondialisation. On est peut-être de plus en plus connectés grâce aux réseaux sociaux, aux infos aussi en ligne. Est-ce que ces régionalismes sont en voie de disparition, selon vous? Ou ça va rester quand même ces petits mots régionaux qui nous sont chers, finalement?
Oui, alors il y a deux cas de figure. Il y en a effectivement qui sont en train de disparaître ou qui sont voués à disparaître, ou en tout cas à vraiment être encore plus régionaux. Je pense par exemple à dîner et souper. C'est ce qu'on peut observer par rapport à ce qu'il y avait il y a 50 ans, ou l'opposition entre brun, BRIN, et brun, BRUN. Mais il y en a d'autres qui se maintiennent assez bien, et je pense grâce aux réseaux sociaux justement, les buzz qu'ils créent, je pense par exemple à Chocolatine ou à Petit Pain au chocolat. Donc les réseaux sociaux, à l'inverse, vont permettre que ces mots continuent d'être employés et donc se diffuser. Je pense par exemple au mot drache qui veut dire une pluie forte et battante dans le nord de la France et en Belgique, et qui commence à être utilisé ça et là en France. Donc vous voyez, les réseaux sociaux ou les télés ont permis en fait finalement que des mots qui soient cantonnés à des régions sortent un peu de leur trou, quoi, si j'ose dire.
Est-ce qu'il y avait aussi une volonté de garder ces mots et ces expressions pour les générations futures? Parce qu'il me semble qu'il y a en Amérique latine deux personnes qui connaissent encore un dialecte local et qui n'ont pas envie de l'apprendre aux autres. Donc ce dialecte est voué à disparaître. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté de regarder comme on parlait à cette époque-là?
Oui, mais c'est toujours difficile, en fait, les volontés de maintien. On le voit aussi avec les patois en Suisse romande, donc avec beaucoup d'associations sur le sauvegarde du patrimoine, sauvegarde de la langue, et puis d'essayer de faire passer ça aux jeunes. Mais s'il n'y a pas une motivation, une volonté de la part des jeunes de leur côté, ces entreprises sont un peu vouées à l'échec. Donc il y a une idée de sauvegarde du patrimoine, mais on peut pas disons que les forces en présence sont trop complexes pour essayer de réussir à faire maintenir des mots. Donc ça, c'est très très difficile en fait d'un point de vue politique de pousser à la suppression ou au maintien de quelque chose de façon volontaire.
Alors Mathieu, vas-y, vous nous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux qui font que certains mots sont plutôt vivaces et reprennent de la vigueur contrairement à ce qu'on pouvait imaginer. Est-ce que au contraire, il y a certains mots qu'on a envie de garder pour soi et puis qui restent entre nous de telles régions et puis qui permettent d'écarter les autres?
Alors, j'ai pas d'idée en tête, mais souvent il y a effectivement des exemples comme ça où le langage fait discrimination, donc les mots font discrimination. Donc je pense par exemple en France aux dénominations du crayon qui sont très clivantes. Donc si vous êtes dans une zone crayon gris, que vous allez dans une zone crayon de bois et puis que vous appelez ça de la mauvaise façon, vous allez vous faire moquer, donc vous faire exclure. On l'a vu aussi le mois dernier ou il y a deux mois à Bordeaux, donc ils voulaient chasser les Parisiens, les Bordelais ne voulaient plus de Parisiens parce qu'ils parlent, et un des arguments c'est qu'ils parlaient pas comme eux. Donc ça peut être effectivement, le langage peut être vraiment un vecteur, disons, d'isolation, quoi.
L'Atlas du français de nos régions, c'est donc publié aux éditions Armand Collin. C'est plein de cartes, plein de mots qui vont vous faire voyager, vous rappeler peut-être des souvenirs également. Mathieu Renzi, on vous remercie beaucoup d'être venu nous en parler quelques minutes ce matin.
Merci Joël.
Bonne journée.